C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.
Bonjour à tous, vous êtes bien sûr 101.5 FM à l'écoute de Radio G. Bienvenue dans l'émission J'entends des voix, une émission à plusieurs voix qui donne à entendre ce qui s'écrit, ce qui se dit, ce qui se lit et peut-être aussi ce qui se chante. J'entends des voix, c'est une demi-heure deux fois par mois, le jeudi à 9h10 en semaine impaire sur Radio G 101.5 FM et en podcast sur radio-g.fr. J'entends des voix, c'est une thématique à travers des textes qui se suivent et ne se ressemblent pas, accompagnée d'une sélection musicale. Pour ces 30 minutes à passer ensemble, il y a Anne, Pascal et Valérie. Nous dédions cette émission aux tireuses de cartes, aux accros de la boule de cristal et aux superstitieux en tout genre, puisqu'aujourd'hui encore nous lirons le hasard, nous lirons la chance et les coïncidences. Commençons par un extrait du carnet rouge de Paul Auster, carnet où il consigne des événements bizarres, des étrangetés et autres invraisemblances. Nous enchaînerons ensuite avec le petit livre des grandes coïncidences de Gilbert Sinoué.
Il y a 12 ans, la sœur de ma femme est partie habiter à Taïwan. Elle avait l'intention d'apprendre le chinois, qu'elle parle aujourd'hui avec une aisance stupéfiante, et de gagner sa vie en donnant des leçons d'anglais aux Chinois de Taipei. C'était un an environ avant que je ne rencontre ma femme, qui faisait alors un doctorat à l'Université de Columbia. Un jour, ma future belle-sœur bavardait avec une amie américaine, une jeune femme qui s'était également rendue à Taipei pour apprendre le chinois. La conversation aborda le sujet de leur famille restée au pays, ce qui, à son tour, engendra l'échange suivant. « J'ai une sœur qui vit à New York », déclara ma belle-sœur. « Moi aussi », répond son amie. « Ma sœur vit dans l'Upper West Side. »
« La mienne aussi. »
« Ma sœur habite la 109e rue Ouest. »
« Crois-le ou non, la mienne aussi. »
« Ma sœur habite au 309. »
« La mienne aussi. »
« Ma sœur habite au premier étage du 309, 109e rue Ouest. »
L'ami respire un grand coup et dit « Je sais que ça paraît dingue, mais la mienne aussi. »
On imagine difficilement deux villes plus distantes que Taipei et New York. Elles sont aux deux extrémités de la Terre, plus de 10 000 miles les séparent. Et quand il fait jour dans l'une, il fait nuit dans l'autre. Comme elle s'émerveillait de l'étonnant rapprochement qu'elle venait de découvrir, les deux jeunes femmes de Taipei se rendirent compte que leurs deux sœurs étaient sans doute endormies à ce moment. Au même étage, du même immeuble, au nord de Manhattan, chacune dormait dans son appartement, inconsciente de la conversation qui se déroulait à l'autre bout du monde. Bien qu'elles furent voisines, il se trouve que les deux sœurs de New York ne se connaissaient pas. Quand elles ont fini par se rencontrer, 2 ans plus tard, elles ne vivaient plus ni l'une ni l'autre dans cet immeuble. Siri et moi étions mariés. Un soir que nous allions à un rendez-vous, nous nous sommes arrêtés en chemin dans une librairie de Broadway pour bouquiner un peu. Nous devons nous être baladés dans des rayons différents, et parce que Siri voulait me montrer quelque chose ou que je voulais lui montrer quelque chose, je ne me rappelle pas, l'un de nous a prononcé à voix haute le nom de l'autre. Une seconde plus tard, une femme se précipitait vers nous. « Vous êtes Paul Auster et Siri Husved, n'est-ce pas ? » a-t-elle demandé. « Oui, avons-nous répondu. C'est précisément qui nous sommes. Comment le savez-vous ? » Elle nous a alors expliqué que sa sœur et celle de Siri avaient étudié ensemble à Taïwan. Le cercle se refermait enfin. Depuis ce soir-là, dans la librairie, il y a 10 ans, cette femme est l'une de nos meilleures et plus fidèles amies.
Rien n'est réel, sauf le hasard. Paul Auster. C'est ainsi que j'ai entamé mon voyage. Hasard. En réalité, l'étymologie du mot hasard se trouve dans la langue arabe az, lui-même dérivé d'alzar, les dés. Par déduction, on peut conclure que le mot coïncidence est lié à un événement ou à une suite d'événements heureux ou malheureux. On annonce le crash d'un avion et l'on apprend que parmi les victimes se trouvait un ami ou un parent. Ou bien nous pensons à quelqu'un, le téléphone sonne. C'est précisément la personne à qui nous pensions. La liste est incalculable de ces faits qui parsèment notre quotidien. En revanche, le phénomène de synchronicité, terme forgé par Carl Gustav Jung, diffère de la coïncidence, ou plutôt la complète. Pour simplifier, la synchronicité, ce sont des coïncidences reliées par un sens, plutôt que par un enchaînement de cause à effet. Pour Jung, il y aurait donc entre la psyché, l'âme et la matière une relation très étroite, une rencontre signifiante, porteuse d'un sens privilégié et qui, indirectement ou non, va influer sur le destin de ceux qui la vivent. Voici deux exemples assez clairs de synchronicité. Un adolescent est tenaillé par la peur de plonger. Un jour, alors qu'il se prélasse au bord d'une piscine, il aperçoit un père qui est en train d'apprendre à son fils à plonger. La complicité qui relie les deux êtres le touche, l'adolescent les observe, il enregistre les gestes, constate qu'il n'existe aucun danger et insensiblement sa peur l'abandonne. Il s'approche alors du couple, le père devine son appréhension et l'encourage à imiter son fils. L'adolescent n'ose plus faire demi-tour et voilà qu'à son grand étonnement, il découvre dans ce premier plongeon un immense plaisir, une sorte d'allégresse. Les années passent, l'adolescent timoré est devenu professeur de natation et de plongée. Ce parcours totalement imprévisible a pris son essor grâce à cette scène dont il fut témoin au bord d'une piscine. L'adolescent avait toujours eu en lui le goût de la plongée et de la natation, mais il a fallu cette synchronicité pour qu'il se révèle pleinement. Second exemple. Vous avez branché votre réveil en prévision d'un départ matinal. Pour une raison inexpliquée, l'alarme ne s'est pas déclenchée. Vous ratez votre avion. Quelques heures plus tard, vous apprenez que cet avion s'est écrasé. Ce qui aurait pu n'être qu'une simple coïncidence, elle est devenue synchronicité. L'événement qui s'est produit, la panne de réveil, a joué un rôle déterminant dans votre destin, puisqu'il vous a permis d'échapper à la mort. Il s'agirait donc là d'un phénomène qui aurait des conséquences incalculables sur notre vision de l'univers et démontrerait que les choses, les événements ne sont pas uniquement régis par la causalité ou un hasard aveugle, mais qu'ils sont véritablement reliés par un fil invisible. La synchronicité serait donc une sorte de hasard créateur. Jung, quant à lui, précisait « Nous pouvons penser que nous suivons notre propre chemin et ne jamais découvrir que nous sommes, en grande partie, des acteurs sur la scène du théâtre de la vie. Il existe des facteurs qui, bien que nous ne les connaissions pas, influencent notre destin, particulièrement lorsqu'il reste inconscient. J'ai souvent rencontré les phénomènes en question et j'ai pu me convaincre de l'importance de ces expériences. Dans la plupart des cas, ce sont des choses dont on ne parle pas, de peur de les exposer à des ricanements sans réflexion. J'ai été étonnée de constater combien de gens ont eu des expériences de ce genre et avec quelles précautions le secret en est gardé.
Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Moi j'ai une toute chance, si peu de chance dans la main, ça me fait peur des lendemains. Ma ligne de chance, ma ligne de chance, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance, c'est fou ce que j'aime ta ligne de hanche, ta ligne de hanche.
Ma ligne de chance,
j'aime la caresser de mes mains. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance,
c'est une fleur dans mon jardin.
Mais regarde ma petite ligne de chance. Mais regarde ma petite ligne de chance. Regarde ce tout petit destin, si petit au creux de ma main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance, tais-toi et donne-moi ta main. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance,
c'est un oiseau dans le matin. ta ligne de hanche.
Ma ligne de chance,
l'oiseau frivole de nos destins.
Quand même une si petite ligne de chance, quand même une si petite ligne de chance. Une si petite ligne, c'est moins que rien. À peine un petit point dans la main. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Ce que j'en pense, quelle importance. Je suis fou de joie tous les matins. Ta ligne de hanche,
ma ligne de chance.
Un oiseau chante dans mes mains. Ta ligne
de hanche,
ma ligne
de chance.
C'est l'oiseau vol de nos destins.
Vous avez écouté Anna Karina déroulait sa ligne de chance et vous avez peut-être vu défiler des images du célèbre Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard puisque c'est une des chansons du film. Place maintenant à Maupassant avec un extrait de Auchan, puis vous entendrez un passage de Nina par hasard, un roman de Michel Lèbre.
Les deux chaumières étaient côte à côte au pied d'une colline, proche d'une petite ville de Bains. Les deux paysans besognaient dur sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. Chaque ménage en avait quatre. Devant les deux portes voisines, toute la marmaille grouillait du matin au soir. Les deux aînés avaient 6 ans et les deux cadets 15 mois environ. Les mariages et ensuite les naissances s'étaient produites à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. La première des demeures était occupée par les Tuvaches, qui avaient 3 filles et un garçon. L'autre masure abritait les Valins, qui avaient 1 fille et 3 garçons. Tout cela vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand air. Un peu de viande au pot-au-feu le dimanche était une fête pour tous. Et le père, ce jour-là, s'attardait au repas en répétant « Je m'y ferai bien tous les jours ». Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières et une jeune femme, qui conduisait elle-même, dit au monsieur assis à côté d'elle « Oh, regarde Henri, ce tas d'enfants, sont-ils jolis comme ça à grouiller dans la poussière ?» L'homme ne répondit rien, accoutumé à ses admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. La femme reprit « Il faut que je les embrasse. Oh, comme je voudrais en avoir un, celui-là, le tout petit !» Et sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des deux derniers, celui des Tuvaches, et l'enlevant dans ses bras, elle le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blonds frisés et pommadés de terre, sur ses menottes qu'il agitait pour se débarrasser des caresses ennuyeuses. Elle revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra de gâteaux, donna des bonbons à tous les autres et joua avec eux comme une gamine, tandis que son mari attendait patiemment dans sa frêle voiture. Elle revint encore, les poches pleines de friandises et de sous. Elle s'appelait Madame Henri Dubière. Un matin, en arrivant, son mari descendit avec elle, et sans s'arrêter aux mioches, qui la connaissaient bien maintenant, elle pénétra dans la demeure des paysans. Ils étaient là, en train de fendre du bois pour la soupe, ils se redressèrent tout surpris, donnèrent des chaises et attendirent. Alors la jeune femme, d'une voix entrecoupée, tremblante, commença. « Mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien emmener avec moi votre petit garçon. Nous n'avons pas d'enfant, nous sommes seuls, mon mari et moi. Nous le garderions, voulez-vous ? » La paysanne commençait à comprendre. Elle demanda « Vous voulez nous pendre, Charlot ?»« Ah ben non, pour sûr. » Alors M. Dubière intervint. « Ma femme s'est mal expliquée. Nous voulons l'adopter, mais il reviendra vous voir. S'il tourne bien, comme tout le porte à croire, il sera notre héritier. Si nous avions, par hasard, des enfants, il partagerait également avec eux. Mais s'il ne répondait pas à nos soins, nous lui donnerions à sa majorité une somme de 20 000 francs qui sera immédiatement déposée en son nom chez un notaire. Et comme on a aussi pensé à vous, on vous servira jusqu'à votre mort une rente de 100 francs par mois. Avez-vous bien compris ? » La fermière s'était levée furieuse. « Vous voulez que je vous vendions Charlot ? Ah mais non ! C'est pas des choses qu'on demande à une mère, ça ! Ah mais non, ça serait abomination !» L'homme ne disait rien, grave et réfléchi, mais il approuvait sa femme d'un mouvement continu de la tête. Alors Madame Dubière, en sortant, s'avisa qu'ils étaient tous deux petits et elle demanda à travers ses larmes, avec une ténacité de femme volontaire et gâtée qui ne veut jamais attendre, « Et l'autre petit n'est pas à vous ?» Le père Tuvache répondit « Non, c'est au voisin. Vous pouvez y aller si vous voulez. » Les Valins étaient à table en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'ils frottaient parcimonieusement avec un peu de beurre piqué au couteau dans une assiette entre eux deux. Monsieur Dubière recommença ses propositions, mais avec plus d'insinuation, de précautions oratoires, d'astuces. Les deux ruraux hochaient la tête en signe de refus, mais quand ils apprirent qu'ils auraient 100 francs par mois, ils se considérèrent, se consultant de l'œil, très ébranlés. Le paysan demanda « C'te rente de 1200 francs, ça sera promis devant le notaire ?» Monsieur Dubière répondit « Mais certainement, dès demain. » La fermière qui méditait reprit « 100 francs par mois, c'est point suffisant pour nous priver du petit. Ça travaillera dans quelques années, cet enfant. Il nous faut 120 francs. » Madame Dubière, trépignant d'impatience, les accorda tout de suite. Et comme elle voulait enlever l'enfant, elle donna 100 francs en cadeau pendant que son mari faisait un écrit. Le maire et un voisin appelé aussitôt servirent de témoins complaisants. Et la jeune femme, radieuse, emporta le marmot hurlant, comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin. On n'entendit plus du tout parler du petit Jean Valin. Les parents, chaque mois, allaient toucher leurs 120 francs chez le notaire, et ils étaient fâchés avec leurs voisins, parce que la mère Tuvache les agonisait d'ignominie, répétant sans cesse de porte en porte qu'il fallait être dénaturé pour vendre son enfant, que c'était une horreur, une saleté, une corromperie. Les Valins vivotaient à leur aise grâce à la pension. La fureur inapaisable des Tuvaches, restée misérable, venait de là. Leur fils aîné partit au service, le second mourut. Charlot resta seul à peiner avec le vieux père pour nourrir la mère et les deux autres sœurs cadettes qu'il avait. Il prenait 21 ans quand un matin une brillante voiture s'arrêta devant les deux chaumières. Un jeune monsieur, avec une chaîne de montre en or, descendit, donnant la main à une vieille dame en cheveux blancs. La vieille dame lui dit « C'est là, mon enfant, à la seconde maison. » Et il entra comme chez lui dans la masure des Valins. La vieille mère l'avait s'établillé, le père infirme sommeillait près de l'âtre, tous deux levèrent la tête et le jeune homme dit « Bonjour papa, bonjour maman ». Ils se dressèrent, effarés. Et quand ils se furent reconnus, les parents voulurent tout de suite sortir le fieu dans le pays pour le montrer. On le conduisit chez le maire, chez l'adjoint, chez le curé, chez l'instituteur. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, le regardait passer. Le soir au souper, il dit au vieux « C'est-il pas malheureux d'être sacrifié comme ça ?» Alors le père Tuvache articula d'un ton coléreux « Vas-tu pas nous reprocher de t'avoir gardé ?» Et le jeune homme brutalement « Oui, je vous le reproche, que vous n'êtes que des niants, des parents comme vous, ça fait le malheur des enfants, que vous mériteriez que je vous quitte. J'aimerais mieux n'être point né que d'être ce que je suis. Quand j'ai vu l'autre tantôt, mon sang n'a fait qu'un tour, je me suis dit « V'là ce que je serai maintenant !» Il se leva « Tenez, je me sens que je ferais bien mieux de pas rester ici parce que je vous le reprochais du matin au soir et que je vous ferais une vie de misère. Ça, voyez-vous, je vous le pardonnerai jamais. » Les deux vieux se taisaient, atterrés, larmoyants. Il reprit « Non, cette idée, ce serait trop dur. J'aime mieux m'en aller chercher ma vie autre part. » Il ouvrit la porte. Un bruit de voix entra. Les Valins festoyaient avec l'enfant revenu. Alors Charlot tapa du pied et se tournant vers ses parents, cria « Manan va !» Et il disparut dans la nuit.
La fille est apparue sur la scène, face au public, immobile, sous une colonne de lumière qui la tenait prisonnière. Elle est restée ainsi plusieurs minutes, des minutes qui nous donnaient une sorte de fièvre. Pendant un assez long moment, je n'ai pas entendu une phrase de son monologue. J'étais trop absorbée par cette présence, si seule, si exposée à nos yeux qui la dévoraient. Je l'enviais. J'enviais cette image qui me suffisait presque, qui me faisait penser à mon désir parfois d'être regardée ainsi, comme quelqu'un d'unique, de fragile, dont le mystère devrait émouvoir le monde entier. Je ne pouvais pas me concentrer sur ce qu'elle disait, tout en écoutant les mots comme de la musique, exactement comme de la musique. Aussi, sans même prêter une réelle attention aux paroles qu'elle prononçait, sans savoir de quoi il s'agissait, j'étais transportée d'émotion, une émotion si intense que j'en frissonnais. De temps à autre, un mot me parvenait, et je me laissais emporter par ce qu'il provoquait en moi, l'impression d'être à l'intérieur de ce mot, d'en faire partie. La fille alors devenait mon double, et j'éprouvais pour nous un étrange sentiment d'amour. Nous n'étions bientôt qu'un seul être, aussi absurde que cela puisse paraître. Je me demandais si cela n'était pas ridicule, si après le spectacle, je pourrais en parler à Arnold sans qu'il se moque. Parce que c'était très sérieux, et si Arnold ne pouvait me comprendre, j'en aurais un épouvantable chagrin. Aujourd'hui, je garde intact le souvenir de cette soirée, de la mélodie triste que la voix de la comédienne interprétait, de ces frissons qui me parcouraient et me ramenaient au préau de l'école, où, tenant la main de Steph, je me sentais soudain plus forte. En fait, je n'ai rien expliqué à Arnold, c'était beaucoup trop compliqué. Je lui ai seulement confié que je voulais être une comédienne moi aussi. Il n'a pas ri de mon enthousiasme, il m'a écouté. J'expliquais ce que j'allais faire. J'allais quitter le collège dans quelques mois, je n'irai dans aucun salon de coiffure, je ferai du théâtre. Rien que des pièces pour une seule comédienne, des pièces avec un éclairage comme celui qui rendait le spectacle dont nous revenions si intense, si bouleversant. « Ah, en voilà une nouvelle. Mais tu sais que tu as un prénom de personnage de théâtre » a-t-il dit avec un air un peu moqueur. « Ah, eh oui, dans une pièce de Tchekhov, il y a une fille prénommée Nina. Elle rêve d'être comédienne, mais surtout elle rêve d'autre chose, d'un ailleurs, de ce qui pourrait donner du sens à sa vie. Un personnage vraiment magnifique, tu vas en aimer le titre, j'en suis sûre. » « C'est quoi ?»« La mouette. » Le lendemain matin, alors que ma mère et moi tentions chacune assise à un bout de la table de nous réveiller, j'ai eu envie de savoir pourquoi ils m'avaient donné ce prénom, mon père et elle. Connaissaient-elles cette pièce de théâtre ? Je ne le pensais pas. « Au fait, pourquoi m'avoir appelée Nina ? » ai-je demandé. Je revois l'air stupéfait de ma mère. « Qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi Nina ? Non mais, tu as de ces questions, toi, le matin, est-ce que je sais, moi ? Vous l'avez quand même choisi, ce prénom, c'est peut-être papa qui a eu l'idée. » « Ton père ? Une idée ?»« Écoute, ma chérie, je n'en sais rien du tout, c'est arrivé comme ça, par hasard. »« Il ne te plaît plus, ce prénom ?»« C'est pas ça, je voulais savoir. » »« Il n'y a rien à savoir, les prénoms, c'est assez mystérieux. Moi, je trouve qu'il te va très bien, celui-là. Tu as vu Rico hier soir ?» Je ne lui en voulais même pas. Je le ressentais tellement, ce hasard qui m'avait posé là, dans cette vie-là, avec cette mère-là, que d'une certaine façon, je pouvais admettre qu'elle n'y était pour rien, qu'elle n'avait pas choisi elle non plus. Nina par hasard, un point, c'est tout. Nous n'avons plus jamais reparlé du théâtre avec Arnold, mais il continue de m'appeler la mouette, parce qu'il sait bien que je suis comme elle, et que le salon de coiffure est une sorte de mensonge en attendant. Il me fait confiance, lui, sinon il ne m'appellerait pas ainsi. Un jour, il se passera quelque chose. C'est peut-être aujourd'hui.
Par hasard et par hasard, je réplique chez elle et sur qui je tombe. Comme par hasard, un para. Le genre de mec qui les tombe toutes, ça m'en fiche un coup. Je suis comme un fou, je m'en vais au hasard, en rasant les murs du cimetière. Je saute, tombe en tombe au hasard des allées. Ça m'a fait l'effet d'une bombe. Toutes les mêmes, après tout, cette fille, je m'en fous. Ouais. Par hasard et par hasard, je réplique chez elle sur qui je tombe. Comme par hasard, un parent. Le genre de mec qui est en tout. Ça m'en fiche un coup, je suis comme un fou. Je m'en vais au hasard, en rasant les murs du cimetière. Je saute de tombe en tombe au hasard, désolé. Ça m'a fait l'effet d'une bombe rasée.
vous aurez reconnu les jeux de mots de Serge Gainsbourg avec « Par hasard » et « Parasé », un titre de 1974. Voici maintenant un extrait de « L'homme des » de Luc Reinhardt, un manifeste culte et subversif affirmant le droit à l'expression de tous les fantasmes. Il sera suivi d'une lecture d'ouverture d'Étienne Dao, puis d'un extrait du « Carnet rouge » de Paul Auster.
Une fois remonté dans ma salle de séjour, je contemplais rêveusement l'as du dé à découvert. Je me grattais les couilles et secouais la tête avec une hébétude incrédule. Il y avait des années, sinon des dizaines d'années, que le viol était à portée de moi. Mais je ne m'y étais risquée que lorsque j'avais cessé de me demander s'il était possible, prudent ou même souhaitable pour l'accomplir enfin sans préméditation, comme le fantoche d'une force étrangère, une créature des dieux, du dé, et non en tant qu'agent responsable. La cause n'en était pas moi, mais le hasard ou le destin. Il n'y avait qu'une chance sur 6 que le dé sortît l'as. Qu'une sur 1 million peut-être que le dé se trouvât sous cette carte. Mon viol avait été à l'évidence dicté par la fatalité. Non coupable. J'aurais bien sûr pu enfreindre ma promesse verbale d'obéir au diktat du dé. Sûr ? Sûr. Mais une promesse. Une promesse solennelle d'obéir au dé. Ma parole d'honneur. Un membre d'une profession libérale, un membre du PANI, était-il censé renier sa parole parce que le dé, contre tout espoir, avait décidé le viol ? Non. Évidemment, non. Il n'y a aucun doute, je ne suis pas coupable. J'éprouvais la même satisfaction qu'on peut avoir à cracher bien précisément dans un crachoir adéquatement placé sous le nez du jury. Mais à tout prendre, c'était un argument de défense passablement faible, et je commençais vaguement à en chercher un autre lorsque l'illumination me frappa. Mais j'ai raison. Je n'ai qu'à toujours obéir au dé, le suivre où qu'il me conduise, plein pouvoir au dé. Excitée et fière de moi, je restais un moment penchée sur mon Rubicon personnel, et je le franchis. Je promulguais à ce moment et à tout jamais le principe de ne jamais remettre en question, d'exécuter désormais sans faute les décisions du dé, quelles qu'elles soient. L'instant suivant fut celui du retour à une réalité décevante. Je ramassai le dé en déclarant « Si c'est 1, 3 ou 5, je vais me coucher. Si c'est 2, je descends demander à Jack la permission d'essayer de revioler Harlène. Si c'est 4 ou 6, je veille pour continuer un peu à réfléchir à tout ça. » Je secouais violemment le dé dans mes mains en cornet et l'éjectais sur la table de poker. Il roula et s'arrêta. 5. Étonnée et un peu dégrisée, j'allais me coucher. C'était une leçon que de nombreuses expériences devaient venir confirmer par la suite. Le dé peut avoir presque aussi peu de jugeote qu'un être humain.
Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous. Pas de coïncidence. Aller vers son destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible, porter au fond de soi l'intuition qui flamboie, l'aventure belle et pure. Celle qui nous révèle, superbe et enfantin, au plus profond de l'âme. Portée par l'allégresse et la douceur de vivre, de l'été qui commence, la rumeur de Paris, comme une symphonie, comme une mer qui balance. J'arrive au rendez-vous. Dans l'épaisse fumée, le monde me bouscule, réfugié dans un coin et observant de loin la foule qui ondule. Mais le choc, imminent, sublime et aveuglant, sans prévenir, arrive. Je m'avance et je vois que tu viens comme moi d'une planète invisible où la pudeur du cœur impose le respect, la confiance sereine. Et plus tu t'ouvres à moi et plus je m'aperçois que lentement je m'ouvre. Et plus je m'ouvre à toi et plus je m'aperçois que lentement tu t'ouvres. Il fut long le chemin et les pièges nombreux avant que l'on se trouve. Il fut long le chemin, les mirages nombreux avant que l'on se trouve. Ce n'est pas le hasard, c'est notre rendez-vous, pas une coïncidence.
Dans le même ordre d'idées, bien que cela se passe en un temps plus ramassé, quelques mois au lieu de 20 ans, un autre ami, R,
m'a parlé d'un livre introuvable qu'il s'était efforcé en vain de dénicher, écumant librairie et catalogue à la recherche de ce qui devait être une œuvre exceptionnelle, qu'il avait grand envie de lire. Et il m'a raconté comment, un après-midi qu'il cheminait dans la ville, il avait pris un raccourci en traversant Grand Canal Station, gravi l'escalier menant à Vanderbilt Avenue, et aperçu une jeune femme debout contre la balustrade de marbre avec un livre devant elle. Celui-là même sur lequel il tentait si désespérément de mettre la main. Bien qu'il ne soit pas dans ses habitudes d'adresser la parole à des inconnus, R trouva la coïncidence trop étourdissante pour garder le silence. « Croyez-le ou non, dit-il à la jeune femme, j'ai cherché ce livre partout. »« Il est merveilleux, répondit-elle. Je viens d'en achever la lecture. » « Savez-vous où je pourrais m'en procurer un autre exemplaire ?» demanda R. « Je ne peux pas vous dire ce que cela signifierait pour moi. »« Celui-ci est à vous, » répliqua la jeune femme. « Mais c'est le vôtre, » protesta R. « C'était le mien, » dit-elle. « Mais maintenant, je l'ai terminé. Je suis venue ici pour vous le donner. »
J'ai entendu ta voix dans la radio.
Merci pour votre écoute. J'entends des voix, c'est terminé. D'ici là, podcastez dès maintenant sur radio-g.fr, émission J'entends des voix. L'émission revient dans 15 jours pour écouter d'autres textes choisis pour vous et par nous. La semaine prochaine, c'est Tout Compte Fait, l'émission de découverte des contes pour tous les âges. La suite, à l'écoute de Radio G, toujours sur 101.5 FM.